Chapitre 15. Ce fut Louis qui le premier rompit ce silence pesant. « Ainsi, commença-t-il, tu refuses les 150 000 francs que je te propose pour disparaître. Réfléchis. Oh, il en est temps encore. C'est tout réfléchi. Je suis sûr maintenant que tu ne chercheras plus à me tromper. Entre les arts sûrs et ma grande fortune probable, à tout risque, je choisis la fortune. Je réussirai ou je périrai avec toi. Et tu m'obéiras. Aveuglément. » Il fallait que Raoul se crût bien certain d'avoir pénétré le projet de son complice, car il ne l'interrogea pas. « D'abord, reprit Louis, tu vas regagner Paris. » « Oui, j'y serai après-demain matin. Et plus que jamais, tu seras assidu près Madame Fauvel. Il ne faut pas qu'il puisse rien arriver dans la maison sans que tu sois prévenu. » « C'est entendu. » Louis posa la main sur l'épaule de Raoul comme pour bien appeler son attention sur ce qu'il allait dire. « Tu as un moyen, poursuivit-il, de reconquérir toute la confiance de ta mère. C'est de rejeter sur moi tous tes torts passés. Ne manque pas de l'employer. Plus tu me rendras odieux à Madame Fauvel et à Madeleine, mieux tu me serviras. Si on pouvait à mon retour me fermer la porte de la maison, je serais ravi. » Mais pour ce qui est de nous deux, nous devons en apparence être brouillés à mort. Si tu continues de me voir, c'est que tu ne peux faire autrement. Voilà le thème, bon, à toi de le développer. » C'est de l'air le plus surpris du monde que Raoul recevait ses instructions au moins singulières. « Quoi ? S'écria-t-il, tu adores Madeleine, et c'est ainsi que tu cherches à lui plaire ? Drôle de façon de faire sa cour. » « Oh, je veux être pendu si je comprends. »« Mais t'as pas besoin de comprendre. »« Bien, » fit Raoul du ton le plus soumis. « Bon, très bien. » Mais Louis se ravisa, se disant que celui-là seul exécute bien une mission qui en soupçonne au moins la portée. « As-tu oui parlé, » demanda-t-il à Raoul, « de cet homme qui, pour avoir le droit de serrer entre ses bras la femme aimée, fut mettre le feu à sa maison ?» « Oui, et après ?»« Eh bien, à un moment donné, je te chargerai de mettre moralement le feu à la maison de Madame Fauvel, et je la sauverai ainsi que sa nièce. » De la voix et du geste, Raoul approuvait son oncle. « Pas mal, » fit-il quand il eut terminé, « pas mal en vérité. » Ainsi, pendant celui, tout est bien entendu. « Oui, tout, mais tu m'écriras. » « Naturellement, de même que s'il survenait du nouveau à Paris, oui, tu aurais une dépêche. Et ne perds pas de vue mon rival, le caissier. »« Ah, prospère où il n'y a pas de danger, pauvre garçon. Il est maintenant mon meilleur ami. Le chagrin l'a poussé dans une voie où il périra. En vrai, il y a des jours où j'ai bonne envie de le plaindre. Plains-le, ne te gêne pas. » Ils échangèrent une dernière poignée de main et se séparèrent les meilleurs amis du monde, en apparence. En réalité, se haïssant de toute leur force. Gaston ne semblait plus se souvenir qu'il avait écrit à Beaucaire et il ne prononça pas une seule fois le nom de Valentine. Comme tous les hommes qui, ayant beaucoup travaillé en leur vie, ont besoin tout à la fois du mouvement du corps et de l'activité, Gaston se passionnait pour sa nouvelle entreprise. L'usine semblait l'absorber entièrement. Elle perdait de l'argent lorsqu'il l'avait achetée et il s'était juré qu'il en ferait une exploitation fructueuse pour lui et pour le pays. Il s'était attaché à un jeune ingénieur, intelligent et hardi, et déjà, grâce à de rapides améliorations, grâce à divers changements de méthode, ils en étaient arrivés à équilibrer la dépense et le produit. Oh, « Nous ferons nos frais cette année, » disait joyeusement Gaston. « Mais l'année prochaine, nous gagnerons 25 000 francs. » L'année prochaine, hélas. 5 jours après le départ de Raoul, un samedi, dans l'après-midi, Gaston se trouva subitement indisposé. Il venait d'être pris d'éblouissement et de vertige, tel que rester debout lui était complètement impossible. « Bof, je connais cela, dit-il. J'ai souvent eu de ces étourdissements à Rio. 2 heures de sommeil me guériront. Je vais me coucher. On m'éveillera pour dîner. » Mais au moment de dîner, quand on monta le prévenir, il était loin de se trouver mieux. Au vertige, un mal de tête affreux avait succédé. Ses tempes battaient avec une violence inouïe. Il éprouvait à la gorge un sentiment indescriptible de constriction et de siècité. Ce n'est pas tout. Sa langue embarrassée n'obéissait plus à sa pensée et le trahissait. Il voulait articuler un mot, il en prononçait un autre, comme il arrive en certains cas de dysphonie et d'alalie. Enfin, tous les muscles maxillaires s'étaient raidis, et ce n'est qu'avec des efforts douloureux qu'il pouvait ouvrir ou fermer la bouche. Louis, qui était monté près de son frère, voulait à toute force envoyer chercher un médecin. Gaston s'y opposa. « Oh, ton médecin, dit-il, me droguera et me rendra malade, tandis que je n'ai qu'une indisposition dont je connais le remède. » Et en même temps, il ordonna à Manuel, son domestique, un vieil espagnol, à son service depuis 10 ans, de lui préparer de la limonade. Le lendemain, en effet, Gaston parut aller beaucoup mieux. Il se leva, mangea d'assez bon appétit au déjeuner, mais à la même heure que la veille, les mêmes douleurs reparurent plus violentes. Cette fois, sans consulter Gaston, Louis envoya chercher un médecin à Oloron, le docteur C, qui doit à certaines curoses aux bonnes une réputation presque européenne. Le docteur déclara que ce n'était rien et il se contenta d'ordonner l'application de plusieurs vésicatoires sur la surface desquelles on devait répandre quelques atomes de morphine. Il prescrivit aussi des prises de valérianate de zinc. Mais dans la nuit, pendant 3 heures environ que Gaston reposa assez tranquillement, le cours de la maladie changea brusquement. Tous les symptômes du côté de la tête disparurent pour faire place à une oppression terrible, si douloureuse que le malade n'avait pas une minute de rémission et se retournait sur son lit sans pouvoir trouver une position tolérable. Le docteur C, venu dès le matin, parut quelque peu surpris, déconcerté même du changement. Il demanda si, pour calmer plus rapidement les douleurs, on n'avait pas exagéré la dose de morphine. Le domestique Manuel, qui avait pansé son maître, répondit que non. Le docteur, alors, après avoir ausculté Gaston, examina attentivement ses articulations et s'aperçut que plusieurs se prenaient, c'est-à-dire se gonflaient et devenaient douloureuses. Il prescrivit des sangsues, du sulfate de quinine à haute dose, et se retira en disant qu'il reviendrait le lendemain. Gaston, grâce à un violent effort, s'était dressé sur son séant. Il ordonna à son domestique d'aller chercher une de ses amies qui était avocat. « Et pourquoi, grand Dieu ?» demanda Louis. « Parce que, frère, j'ai besoin de ses avis. Ne nous abusons pas, je suis très mal. Or, il n'y a que les lâches ou les imbéciles qui se laissent surprendre par la mort. Quand mes dispositions seront prises, je serai plus tranquille. Allez, qu'on m'obéisse. » S'il tenait à consulter un homme d'affaires, c'est qu'il voulait rédiger un nouveau testament et assurer toute sa fortune à Louis. L'avocat qu'il avait envoyé chercher, un de ses amis, était un petit homme fort connu dans le pays, rusé et délié, rompu aux artifices de la légalité, à son aise dans les entraves du code civil, comme une anguille dans sa vase. Lorsqu'il se fut bien pénétré des intentions de son client, il n'eut plus qu'une idée, les réaliser au meilleur marché possible, en évitant habilement des droits de succession toujours considérables. Un moyen fort simple s'offrait. Si Gaston, par un acte, associait son frère à ses entreprises en lui reconnaissant un apport équivalent à la moitié de sa fortune, et qu'il vint à mourir, Louis n'aurait à payer des droits que sur le reste, c'est-à-dire sur la moitié. Et c'est avec le plus vif empressement que Gaston adopta cette fiction. Non qu'il songea à l'économie qu'elle réaliserait s'il mourait, mais parce qu'il y voyait une occasion, s'il vivait, de partager avec son frère tout ce qu'il possédait sans froisser sa délicatesse susceptible. Un acte d'association entre les sieurs Gaston et Louis de Calmeran fut donc rédigé pour l'exploitation d'une usine de fonte de fer, acte qui reconnaissait à Louis une mise de fonds de 500 000 francs. Mais Louis, qu'il fallut avertir, puisque sa signature était indispensable, sembla s'opposer de toutes ses forces au projet de son frère. « Mais à quoi bon, disait-il, tous ces préparatifs ? Pourquoi cette inquiétude d'outre-tombe pour une indisposition dont tu ne te souviendras plus dans 8 jours ? Penses-tu que je puisse consentir à te dépouiller de ton vivant ? Mais tant que tu vis, ce que tu as est à toi, c'est entendu. Si tu meurs, je suis ton héritier, mais que veux-tu de plus ? » Vaine parole, Gaston n'était pas de ces hommes dont un rien fait vaciller la faible volonté. Après une longue et héroïque résistance qui fit éclater et son beau caractère et son rare désintéressement, Louis, à bout d'arguments, pressé par le médecin, se décida à poser sa signature sur les traités rédigés par l'avocat. C'en était fait. Il était désormais, pour la justice humaine, pour tous les tribunaux du monde, l'associé de son frère, le possesseur de la moitié de ses biens. Les plus étranges sensations remuaient alors le complice de Raoul. Il perdait presque la tête, égaré par ce délire passager des gens qui, brusquement, sans transition, par hasard ou par accident, passent de la misère à l'opulence. Que Gaston vécût ou mourût, Louis possédait légitimement, honnêtement, 25 000 livres de rente, même en ne comptant pour rien les bénéfices aléatoires de l'usine. En aucun temps, il n'avait osé espérer ni rêver une telle richesse. Ses vœux n'étaient pas seulement accomplis, ils étaient dépassés. Que lui manquait-il désormais ? Hélas, il lui manquait la possibilité de jouir en paix de cette aisance. Elle arrivait trop tard. Cette fortune qui lui tombait du ciel et qui eût dû le remplir de joie remplissait son cœur de tristesse et de colère. Ses lettres à Raoul, pendant 2 ou 3 jours, rendaient bien toutes les fluctuations de ses pensées et gardaient un reflet des détestables sentiments qui s'agitaient en lui. « J'ai 25 000 livres de rente, lui écrivait-il quelques heures après avoir signé l'acte de société. Je possède à moi 500 000 francs. La moitié, que dis-je, le quart de cette somme aurait fait de moi, il y a un an, le plus heureux des hommes. Mais à quoi me sert cette fortune aujourd'hui ? À rien. Tout l'or de la terre ne supprimerait pas une des difficultés de notre situation. Mais tu avais raison, j'ai été imprudent, mais je paye cher ma précipitation. Nous sommes maintenant lancés sur une pente si rapide que, bon gré, mal gré, faut aller jusqu'au bout. Tenter même de s'arrêter serait insensé. Riche ou pauvre, je dois trembler tant qu'une entrevue de Gaston et de Valentine sera possible. Mais comment les séparer à jamais ? Mon frère renoncera-t-il à recevoir cette femme tant aimée ? Non, Gaston ne renonçait pas à chercher à retrouver Valentine. Et la preuve, c'est que plusieurs fois, au milieu des plus vives souffrances, il avait prononcé son nom. Cependant, vers la fin de la semaine, le pauvre malade eut 2 jours de rémission. Il put se lever, manger quelques bouchées, même se promener un peu. Mais il n'était plus que l'ombre de lui-même. En moins de 10 jours, il avait vieilli de 10 ans. Le mal sur les organisations puissantes, comme celle de Gaston, ayant plus de prise, les brise en moins de rien. Appuyé au bras de son frère, il traversa la prairie pour aller donner un coup d'œil à l'usine, et s'étant assis non loin d'un fourneau en activité, il déclara qu'il s'y trouvait bien et qu'il renaissait à cette chaleur intense. Il ne souffrait pas, il se sentait la tête dégagée, il respirait librement, ses pressentiments se dissipaient. « Je suis bâti à chaud et à sable, » disait-il aux ouvriers qui l'entouraient. « Je suis capable de m'en tirer. »« Les vieux arbres dépérissent quand on les transplante, » répétait-il. « Oh, je ferais bien, si je veux vivre longtemps, de retourner à Rio. » Quelle espérance pour lui, et avec quelle ardeur il s'y accrocha. « Ah oui, » répondit-il, « tu ferais bien, très bien même. Je t'accompagnerai. » Un voyage au Brésil avec toi serait pour moi une partie de plaisir. Mais quoi, projet de malade, projet d'enfant. Le lendemain, Gaston avait bien d'autres idées. Il affirmait que jamais il ne saurait se résoudre à quitter la France. Il se proposait, sitôt guéri, de visiter Paris. Il y consulterait des médecins. Il y retrouverait Valentine. À mesure que sa maladie se prolongeait, il s'inquiétait d'elle davantage et il s'étonnait de ne pas recevoir des lettres de Beaucaire. Cette réponse qui tardait le préoccupait si fort qu'il écrivit de nouveau en termes pressants demandant un mot par le retour du courrier. Cette seconde lettre, la Fourcade ne la reçut jamais. Ce soir-là même, Gaston recommença à se plaindre. Les 2 ou 3 jours de mieux n'étaient qu'une halte de la maladie. Elle reprit avec une énergie et une violence inouïe, et pour la première fois, le docteur C laissa voir des inquiétudes. Enfin, le 14e jour de sa maladie, au matin, Gaston, qui était resté toute la nuit plongé dans l'assoupissement le plus inquiétant, parut se ranimer. Il envoya chercher un prêtre et resta seul avec lui une demi-heure environ, déclarant qu'il mourait en chrétien comme ses ancêtres. Puis il fit ouvrir toutes grandes les portes de sa chambre et donna ordre qu'on fît entrer ses ouvriers. Il leur adressa ses adieux et leur dit qu'il s'était occupé de leur sort. Quand ils se furent retirés, il fit promettre à son frère de conserver l'usine, l'embrassa une dernière fois et, retombant sur ses oreillers, il entra en agonie. Comme midi sonnait, sans secousse, sans convulsion, il expira. Désormais, Louis était bien marquis de Clamerand et il était millionnaire. 15 jours plus tard, cependant, Louis ayant arrangé toutes ses affaires, et s'étant entendu avec l'ingénieur qui conduisait l'usine, prenait le chemin de fer. La veille, il avait adressé à Raoul ce télégramme significatif : « J'arrive !»